Voilà, je suis vraiment très heureux de, comme l'a dit Vincent, de me retrouver avec vous aujourd'hui. Vous savez, l'affection que j'ai pour les uns et les autres et l'amitié que j'ai pour Duhec, qui je crois est vraiment une association qui a une place toute particulière au sein de l'Église et qui a un rôle éminent à jouer, je pense, pour l'accompagnement des personnes touchées d'une manière ou d'une autre par la question de l'homosexualité, mais aussi pour permettre que ces personnes trouvent toujours davantage leur place au sein de l'Église, car tous ont leur place dans l'Église. Alors vous m'avez invité et vous me demandez d'introduire un peu votre thème d'année, invité à l'audace. Vous savez, ce sont quelques petites réflexions que je voudrais avoir avec vous, qui n'ont pas la prétention d'être un traité exhaustif, ni quelque chose qui va vous transporter au 7e ciel, mais peut-être quelques réflexions que j'ai eues en écoutant, en voyant ce thème. Et j'ai intitulé cette petite intervention « Au risque de sa vie, au risque de l'amour ». Parce que je pense que, de fait, l'invitation à l'audace est toujours une invitation au risque et qu'il n'y a pas d'audace sans risque. Je voudrais introduire mon propos en vous reprenant ce qui, pour moi, dans l'Évangile, incarne le plus l'audace. C'est le passage de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 14, lorsque Jésus marche sur les eaux. Je vous relis ce texte. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Personnellement, je trouve qu'il y a tout dans ce texte, et je vous invite vraiment à le garder en mémoire tout au long de cette année. Je voudrais d'abord vous inviter à contempler Pierre. Pierre qui est dans sa barque, certes une barque balayée par le vent, mais qui est quand même à l'abri de sa barque. Moi j'imagine souvent dans ma prière, Pierre sortant sa jambe à l'invitation de Jésus, sortant sa jambe de la barque pour mettre un pied sur l'eau, tremblant, sortant sa deuxième jambe de la barque et se dire « je vais marcher sur l'eau ». Jamais personne n'a marché sur l'eau. Et voici que Pierre ose et a cette audace folle de répondre à l'invitation de Jésus de sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Oh, Pierre, il a cette audace de marcher sur l'eau, mais cette audace, elle répond déjà à une espèce de, non pas de crainte, mais de vérification. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur l'eau. Il n'est pas fou, Pierre. Il ne croit pas, il ne prend pas tout comme ça, à compte, au comptant. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur l'eau. Et voici que Pierre sort de la barque. Mais l'audace, c'est aussi risqué. Et il nous faut bien regarder dans la bonne direction. Et on voit bien que lorsque le regard de Pierre se met à diverger, alors il se met à couler. C'est lorsque Pierre conserve son regard sur Jésus qu'il arrive à tenir sur l'eau, lorsque son regard diverge, lorsqu'il pense au vent et à autre chose que Jésus, alors il coule. Mais quand il sombre, il crie la demande radicale de tout homme vers Dieu, « Seigneur, sauve-moi ! » Il n'est d'audace possible, et nous y reviendrons, que parce que nous savons que de toute façon, le Seigneur est là et que nous pouvons crier vers lui, « Seigneur, sauve-moi ! » Puis vous voyez le Christ qui lui tend la main, car il n'abandonne personne, la tempête qui s'apaise et la découverte, ou plutôt l'expression, par ceux qui étaient dans la barque de la Seigneurie du Christ, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Alors oui, je pense que nous sommes invités, un peu comme Pierre, à avoir cette audace et à oser nous aussi sortir de notre barque. Et je pense que dans ce passage d'Évangile, il y a une leçon étonnante et une manière de vivre l'audace. Il n'est pas de vie sans risque et il n'est pas de bonheur sans audace. Il faut parfois avoir l'audace d'être heureux. On choisit d'être heureux, on se risque au bonheur. Ensuite, il n'est pas de risque sans filet de sécurité pour nous croyants. L'attention du Christ vis-à-vis de tous les hommes, nous le savons, elle est de toujours à toujours, elle est pour tous, et quoi que nous fassions, dans quelque chemin que nous allions, nous savons que le Christ sera toujours là et qu'il est toujours prêt à nous tendre la main, même s'il nous dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Enfin, je crois qu'il n'est pas d'épanouissement total sans reconnaissance de Jésus comme notre Seigneur et notre Maître. C'est si nous confessons la Seigneurie du Christ, si nous acceptons de reconnaître qu'il est celui qui nous appelle, mais celui qui nous guide sur le chemin de la vie, si nous le reconnaissons comme notre Maître, alors nous pourrons vivre totalement cette vie à laquelle il ne cesse de nous appeler en abondance. On voit ainsi que ce thème que vous avez choisi, que nous avons choisi ensemble, décliné dans le livret d'année, fait coexister et jouer ensemble, se refléter différents éléments importants comme un diamant scintille de multiples facettes. Audace et risque, confiance et espérance, bonheur et plénitude, force et courage, soutien et altérité, sagesse et folie. L'audace évoque bien des paradoxes, bien des attitudes, bien des mots qu'il nous faudra au fil de cette année approfondir les uns et les autres. Alors, je n'ai pas bien entendu la prétention de vouloir tout dire, mais je voudrais faire un petit bout de chemin avec vous et faire scintiller quelques-unes de ces facettes du diamant que nous sommes tous, car nous brillons tous aux yeux du monde de cette beauté et de cet éclat que Dieu a mis en nous. Et cet éclat, il ne le retire jamais. Et vous savez, le diamant non seulement brille de mille facettes, mais il a une immense solidité. Rien n'est plus solide que le diamant. Alors, je voudrais qu'en découvrant ces multiples facettes, nous découvrions aussi notre propre solidité qui nous permet de vivre le risque et l'audace. Je ferai en trois pas. Le premier pas, c'est que je pense que si nous sommes nous invités à l'audace, nous devons avant tout contempler la folle audace de Dieu. Contemplons un instant la folle audace de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas en effet commencer sans contempler Dieu qui se révèle à l'homme, qui se révèle progressivement, qui se révèle en se laissant découvrir petit à petit jusqu'à lui-même vivre l'audace complète d'une vie donnée, donnée en abondance, en mourant sur le bois de la croix. Contemplons cette audace de Dieu qui se déploie en Jésus. Cette audace, c'est d'abord l'audace de l'alliance. C'est bien à travers ce terme que la relation entre Dieu et l'humanité se caractérise. Vous le savez bien, Dieu aurait pu rester en lui-même. Il était communion d'amour. Vous savez, on a du mal quelquefois à définir la Trinité, mais en fait, la Trinité, je trouve que c'est assez simple. La Trinité, c'est quoi? C'est le Père qui, parce qu'il est amour, ne peut que se donner, et il a cette audace folle de se donner, et il se donne totalement, et il se donne totalement à celui qui peut le recevoir totalement, qui est son Fils. Et cette circulation d'amour entre le Père et le Fils, puisque si le Fils est comme le Père, il est amour lui aussi, il ne peut que se donner également. Cette circulation d'amour total entre le Père et le Fils dans une circulation infinie, c'est l'Esprit Saint. Et donc, il n'y a en Dieu que de l'amour. Il n'y a en Dieu que de la circulation d'amour. Mais si Dieu aurait pu rester en lui-même, dans cette circulation d'amour interne, l'amour par définition est fécond. Et il fallait que Dieu puisse se donner à l'extérieur de lui-même parce que cet amour déborde. On n'aime pas pour s'enfermer sur soi-même. On aime pour se donner à l'extérieur. Et Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Non seulement il a voulu un partenaire, mais il a voulu un partenaire à son image et à sa ressemblance, pour être capable également de se donner, pour être capable également de se donner totalement et de se recevoir totalement dans l'amour, à son image et à sa ressemblance. Et déjà, nous voyons quelque chose de ce qu'est l'homme et de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, ceux qui sont capables de se risquer dans l'amour, de se risquer dans l'amour donné et dans l'amour reçu. Alors peut-être faut-il que nous relisions aussi le psaume 8, si merveilleux. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses celui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, tu le fis un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Oui, dans cette création que Dieu a voulu, cette création de l'homme et de la femme, il nous fit un peu moindre qu'un Dieu, mais capable de donner cet amour et de recevoir cet amour. Alors le premier pas, je pense, que nous avons et que nous pouvons faire, c'est de nous dire que l'audace de Dieu que nous sommes invités à contempler nous invite à sortir de nous-mêmes, à ne pas rester enfermés en nous, mais à nous donner tout entier. Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner. Et en même temps, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et encore, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toutes ces phrases sont autant de balises pour nous inviter à vivre pleinement. Alors il faut parfois oser sortir de notre zone de confort pour accepter de nous réaliser en nous donnant. Dieu est Dieu quand il se donne, et nous sommes à son image et à sa ressemblance. Voilà cette audace de l'alliance. Deuxième audace de Dieu, je crois, c'est celle de la fidélité. L'audace de la fidélité. Parce que cette histoire d'alliance est une histoire de fidélité, et peut-être d'ailleurs une histoire d'infidélité, mais d'une infidélité à laquelle Dieu ne se résigne pas. Vous vous souvenez, alors même que Moïse parle avec Dieu dans la nuée du ciel pour recevoir les 10 paroles, qui sont beaucoup plus que 10 commandements, qui sont 10 paroles de vie, voici que le peuple construit un veau d'or et se met à retourner à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui a toujours été le grand danger de l'humanité, qui a toujours été le grand danger dans la relation entre l'homme et le divin. Dieu n'a cessé de parler à son peuple par les prophètes, en ne se résignant pas à l'infidélité de ce peuple qui, dit-il, l'honneur des lèvres, mais dont le cœur fait la guerre. Ce peuple qui méprise le pauvre et qui fausse les balances. Alors Dieu, en pédagogue, avide de la fidélité de même de l'homme, mais plus encore désireux de manifester sa propre fidélité, qui est de toujours à toujours. Cette fidélité incroyable, inlassable, Dieu va envoyer des hommes pour dire à son peuple « Revenez à moi de tout votre cœur ». La fidélité de Dieu, c'est une fidélité qui nous invite toujours à revenir à lui. Et sans doute, pour revenir à lui, faut-il que nous revenions à nous-mêmes. L'audace de Dieu, c'est de ne jamais désespérer de l'homme. Il croit en l'homme. Qui croit en Dieu, du coup, doit croire en l'homme, et plus encore, croire en lui-même. Et peut-être que la plus grande des audaces, c'est de croire en nous. De croire en nos potentialités, de croire en nos possibilités, de croire en cette énergie vitale qu'il y a à nous, de croire en notre possibilité d'aimer, de croire que tout ce que nous avons nous a été donné et que ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Alors, en contemplant Dieu, nous découvrons que nous ne pouvons jamais nous résigner à nos propres échecs, que le pardon est toujours là pour nous sauver, et que si Jésus est tombé 3 fois sous le bois de la croix, c'est bien pour montrer qu'il est toujours possible de se relever. L'audace de la fidélité de Dieu, c'est de nous inviter à vivre cette fidélité comme un soutien inlassable, en ne nous résignant jamais à nos échecs possibles, mais en acceptant toujours de se laisser relever par Dieu. Notre Dieu est celui qui ne nous laisse jamais, comme le dit le psalmiste, le ventre collé à la poussière, mais qui nous invite toujours à être debout. Soyons des hommes et des femmes debout. Voilà, je crois, l'audace de la fidélité de Dieu. En contemplant encore Dieu, je crois que nous sommes invités à le contempler dans son audace de la solidarité. Ce mot solidarité sans doute est galvaudé, mais je crois qu'il y a une solidarité radicale de Dieu avec l'humanité qui se lie en Christ. Vous le savez, nous connaissons Dieu par Jésus. Celui qui dit qu'il connaît Dieu ne peut le connaître que parce qu'il s'est révélé en son Fils. Et vous vous souvenez le passage de l'Évangile où Philippe interpelle Jésus et où Jésus lui répond « Mais Philippe, tu le sais bien, qui m'a vu a vu le Père ?» Et donc il nous faut regarder Jésus pour découvrir qui est le Père. Et si nous regardons Jésus, nous le regardons dans différents épisodes de sa vie qui manifestent cette solidarité radicale de Dieu avec l'homme et avec l'humanité. D'abord, au début de sa vie publique, Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le baptême de Jésus, c'est un baptême donné par Jean-Baptiste qui est un baptême pour la conversion des pécheurs. Lui, qui est sans péché, il accepte de se faire baptiser pour la conversion des pécheurs. Il entre dans l'eau à la suite de tous ces hommes et ces femmes qui sont pécheurs et il se fait baptiser par Jean dans une espèce de solidarité de Dieu avec tous les hommes. Car le royaume de Dieu s'est approché en Jésus et c'est ça la prédication de Jean-Baptiste. Lui qui n'avait pas commis le péché, il accepte d'être assimilé aux pécheurs. Et c'est quelque chose pour moi qui est très fort. Lui qui n'avait pas commis le péché, il accepte d'être assimilé aux pécheurs. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que ma spiritualité est très marquée par la spiritualité du Père Lataste. Le Père Lataste, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un dominicain qui a vécu dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui invitait à prêcher la retraite à des détenus dans la prison de Cadillac, a été comme bouleversé par ce qu'il a rencontré, par les femmes qu'il a vues. Et au soir de ses premières prédications, alors qu'il avait prêché, qu'il avait confessé ses femmes, qu'il les avait vues, elles qui étaient condamnées aux travaux forcés, qu'il les avait vues en adoration toute la nuit, il s'exclame « J'ai vu des merveilles ». Et devant ces femmes qui avaient une sainteté qui allait bien au-delà du crime, des crimes qu'elles avaient pu commettre, le père Lataste découvre l'aspiration à une vie religieuse d'un certain nombre d'entre elles, et alors qu'à cette époque-là, il était impossible que des femmes qui étaient condamnées et avaient fait de la prison deviennent religieuses, il se bat, et après avoir établi le statut de réhabilité, va fonder une congrégation, la congrégation des dominicaines de Béthanie, dans laquelle vont vivre, et il va demander que vivent des femmes qui sortent de prison, des femmes prostituées, mais aussi des femmes dont la vie était moins marquée par le chaos ou la difficulté, dans ce désir, dit-il, d'être confondues. C'est-à-dire que les unes et les autres soient confondues, et les dominicaines de Béthanie vivent cette vie religieuse sans dans cette discrétion qui est essentielle dans la spiritualité du Père Lataste, où ces discrétions les invitent à ne pas savoir quel est le passé des unes et des autres, et donc de ne pas savoir qui a eu une vie aussi paisible ou aussi facile d'une certaine manière que possible, et qui a eu une vie marquée par la détresse, la prison, la délinquance. Et cette spiritualité du Père Latasse, cette spiritualité d'être confondu avec, qui a irradié aussi, puisque je fais partie de la fraternité sacerdotale Lataste, dans laquelle vivent des prêtres qui, d'une manière ou d'une autre, exercent leur ministère, ou d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent plus exercer leur ministère, mais confondus les uns et les autres, c'est-à-dire que nous ne parlons jamais de notre ministère, et que seuls ceux qui ont un ministère public, c'est-à-dire les évêques et les prêtres qui ont un ministère public, célèbrent l'Eucharistie, nous ne concélébrons pas, pour que ceux qui ne peuvent pas concélébrer ne manifestent pas, et que nous soyons confondus. Mais le fait d'être confondu, ça vient, je crois, du baptême de Jésus. Jésus a accepté d'être confondu avec les pécheurs. Et c'est si fort, cette solidarité. Jésus est solidaire de son peuple. Il accepte d'entrer dans une histoire de pécheurs. Et on peut aussi relire la généalogie de Jésus. Vous savez, Jésus, ce n'est pas un homme de bonne famille. Hein. Dans son ascendance, on voit bien qu'il y a des prostituées, il y a des meurtriers, il y a des adultères. Voilà. Il est issu d'une lignée dans laquelle il y a le condensé de l'humanité. Mais Jésus, il vient à la suite de tout ça. Il accepte là aussi d'être confondu avec son histoire. Et je crois que cette solidarité de Jésus nous invite, nous aussi, à l'audace d'accueillir notre propre origine. L'audace, parfois, de nous réconcilier avec notre propre passé, avec notre famille, avec nos parents. Il faut parfois regarder ce qui, pour nous, peut être une souffrance, quelle qu'elle soit, avec un peu de douceur, pour se réconcilier avec nous-mêmes. Il est essentiel, je crois, pour tout être humain, de rester connecté à ses racines, à ses ancêtres, à ses propres traditions, contre le mouvement perpétuel qui nous inviterait à être comme des êtres isolés qui ne seraient pas rattachés à quelque chose de solide. Vous savez, maintenant, je suis un provincial et je suis heureux d'être un provincial. Je découvre la terre et je découvre les Pyrénées. Les Pyrénées, les Pyrénéens, c'est enraciné dans la terre, dans la montagne. Non seulement ce sont des hommes de terre, mais ce sont des hommes de montagne. Et il y a dans les montagnards quelque chose de profondément enraciné. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui me regardent là, mais un peu rugueux quelquefois, vous savez. Mais tellement solide. Et je crois que nous avons à vivre cela, de rester connectés à la réalité pour ne pas être comme des êtres flottants. Nous ne pouvons pas être flottants. Jésus nous enseigne par sa généalogie, par son histoire, par son baptême, qu'il est connecté, qu'il est enraciné dans un peuple. Alors, cela nous entraîne aussi à la solidarité avec tout le genre humain. Nous ne pouvons pas prétendre vivre seuls. De la même façon que nous ne sommes pas isolés, que nous ne sommes pas flottants, nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Nous avons été créés, hommes et femmes, dans un principe de solidarité, et ce principe est à la base des relations humaines. Nous sommes invités à l'audace de la solidarité avec ceux qui sont les plus pauvres, sans doute, et ceux qui sont les plus fracassés par la vie, parce que nous savons que nous découvrons en eux le Christ, et que c'est en eux que le Christ se dévoile. Et si nous voulons vivre notre vie chrétienne, si nous voulons vivre le Christ, il faut que nous nous approchions des plus pauvres et des plus faibles, que nous ayons l'audace de vivre cette approche, ce rapprochement, mais qu'également nous ayons l'audace et que nous prenions le risque de découvrir par eux le visage du Christ. Alors ce visage du Christ ne nous apparaîtra sans doute pas comme le Christ triomphant, mais il nous apparaîtra comme le Christ blessé, comme le Christ souffrant, mais comme celui qui s'approche le plus de nous également. Alors, je crois que nous sommes invités dans ce fait, dans cette alliance qui se fait solidarité de Dieu avec les hommes, à surtout à éviter de mettre de côté les bons et les méchants. Éviter de mettre des étiquettes sur les gens. Si Jésus s'est fait solidaire de toute l'humanité, sans doute y a-t-il une invitation pour les uns et les autres à ne pas se dire que d'un côté il y a les bons et de l'autre il y a les méchants. Il y a un peuple. Il y a ensemble des gens, des personnes qui cherchent Dieu avec leur histoire, avec leur richesse, avec leur faiblesse, mais sans enfermer les uns et les autres dans un schéma et dans une étiquette tout prête. Alors, à ce sujet, je pense que l'homosexualité sans doute structure une personnalité, mais elle ne l'épuise pas. C'est-à-dire qu'elle structure un mode de relation, qu'elle structure une façon d'être, très certainement, mais qu'elle ne caractérise pas la personne dans sa totalité. On est homme, on est femme, on est enfant de Dieu, on est aimable, on est aimé en étant homosexuel, avant même d'être homosexuel. Et cela donne un regard sur la vie, mais cela n'emprisonne pas notre vie. Et je pense que nous avons à faire attention à ce que l'orientation sexuelle que nous avons, quelle qu'elle soit, n'emprisonne pas notre vie, mais qu'au contraire, elle puisse libérer en nous toutes les puissances de vie. Comment est-ce que notre personnalité est structurée par notre orientation sexuelle, mais en même temps, quel regard portons-nous sur cette orientation sexuelle pour qu'elle n'emprisonne pas notre vie, mais qu'elle libère cette puissance d'audace, cette puissance de risque, parce qu'il nous faut risquer à aimer en acte et en vérité. Alors voilà, nous sommes d'abord invités à contempler l'audace de Dieu, cette audace du Dieu de l'Alliance, du Dieu de la fidélité, du Dieu de la solidarité. Deuxième pas que je voudrais faire avec vous, c'est que non seulement il nous faut contempler la folle audace de Dieu, mais je crois que nous sommes invités à vivre la belle audace d'être. La belle audace d'être. D'abord, nous sommes des vivants faits pour la vie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, dit saint Irénée. C'est-à-dire que l'horizon de notre vie, c'est la divinisation. Et cela nous invite à ne pas regarder uniquement les réalités terrestres de notre existence, mais d'aller plus loin encore pour regarder notre destinée. Nous sommes faits pour être divinisés. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est-à-dire que un jour, nous serons totalement en Dieu. Et j'aime beaucoup, au moment de la fête de Pâques, ces oraisons et ces lectures qui nous invitent à ne pas avoir simplement notre regard qui est penché sur les réalités terrestres, mais à l'avoir toujours au-delà de nous-mêmes, contemplant les réalités célestes, parce que c'est là que nous sommes le plus nous-mêmes. Lorsque nous serons en Dieu, nous serons totalement divinisés et donc totalement humanisés. Et le plan de Dieu, de sa création à son image et à sa ressemblance, s'établira pleinement. Cela veut dire que nous ne pouvons pas vivre notre vie simplement en pensant que ce sont les réalités d'aujourd'hui qui vont modeler toute notre existence. L'espérance, elle est là. L'espérance est là de nous dire que nous allons et nous sommes appelés à déployer pleinement notre humanité qui un jour s'accomplira totalement en Dieu. C'est une promesse d'espérance, mais c'est une promesse pour aujourd'hui aussi, parce que tout est en devenir. Le présent est en devenir. Et c'est magnifique de se dire qu'il n'y a rien qui nous enferme. Vous savez, vous connaissez cette phrase du Deutéronome, lorsque le peuple était en exil, loin de sa terre, loin de son temple, qui était présence de Dieu, Dieu lui dit « Je vous ai préparé un avenir et une espérance ». Cet avenir et cette espérance, elles sont pour nous aujourd'hui. Nous ne nous enfermons pas dans un présent qui nous semble peut-être oppressant, mais nous sommes toujours invités à vivre demain. L'audace, c'est de vivre demain. Rappelez-vous cette belle phrase qu'on a trouvée, paraît-il, je crois, chez une carmélite, je ne me souviens plus. Dieu le pardonne, le passé Dieu le pardonne, l'avenir Dieu le donne, vis le moment présent. C'est parce que Dieu nous donne un avenir que nous pouvons vivre le moment présent. Alors je crois que nous sommes invités à avoir toujours cet horizon de la divinisation, cet horizon de l'être pleinement humain que nous serons un jour, qui nous invite à vivre notre quotidien. Mais si nous sommes invités à être divinisés, si nous serons divinisés, c'est pas moi, moins ce qui me plaît en moi, moins ce qui me semble imparfait, mais c'est moi, avec tout ce que je suis, qui sera divinisé. Et c'est ça qui est important. C'est Dieu ne va pas choisir ce qui lui plaît dans la divinisation qu'il fera de moi, mais c'est moi, avec tout ce que je suis, moi avec mes relations, moi avec ma joie, moi avec mon énergie, moi avec ma faiblesse, moi avec ma force. Et donc, c'est en regardant le plan d'amour de Dieu sur nous, qui veut que nous soyons divinisés, qu'il nous faut accepter ce que nous sommes, avec nos richesses et nos limites, en ne regardant pas uniquement ce qui nous apparaît comme une faiblesse, mais avec la totalité et la globalité de ce que nous sommes, des hommes et des femmes faits pour être aimés et pour aimer, appelés au bonheur et à la sainteté. Appelés à la belle audace d'être. C'est non simplement contempler cette divinisation, mais c'est aussi accepter le choix de Dieu. L'audace, c'est d'accepter d'avoir été choisi par Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul dit « Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Ce qu'il y a de simple, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. » Et ça, ça s'applique à nous tous, à nous tous. Même aux plus grands, il faut considérer que ce qu'il n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Nous avons les uns et les autres été choisis par Dieu. Choisis pour être destinataires de son amour. Destinataires et dépositaires. Et à ce moment, nous avons sans cesse à nous rappeler notre baptême. Au jour de notre baptême, comme pour le Christ, les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre qui disait « Tu es mon enfant bien-aimé ». En toi, j'ai mis tout mon amour. Nous avons été choisis par Dieu pour être dépositaires de la totalité de son amour. En toi, j'ai mis tout mon amour. Et vous savez, c'était la parabole de l'évangile de dimanche dernier. Les invités, lorsque Jésus appelle à travailler à sa vigne et qu'il donne un denier, qu'il promet un denier à celui qui a appelé la première heure, mais qu'il donne un denier à la dernière heure, à celui qui a travaillé à la dernière heure. Mais parce qu'on n'imagine pas Dieu donnant tout son amour à quelqu'un, puis un quart de son amour à l'autre et un tiers à un troisième. Dieu ne peut que donner la totalité de son amour. Et donc nous sommes dépositaires de la totalité de son amour. Vous vous rendez compte la puissance que cela représente ? Dieu met en nous tout son amour. Mais réfléchissons à cela. C'est notre force, elle vient de là. Il met en chacun de nous la totalité de son amour et il nous en fait dépositaires. Si nous sommes dépositaires, cela veut dire que nous n'en sommes pas propriétaires. Et nous ne pouvons pas enfermer cet amour. Nous avons à le rendre nous-mêmes. Nous avons reçu cette mission d'avoir l'audace d'aimer. Et nous avons à être témoins de cet amour. Le sacrement de la confirmation nous a remplis de cette audace de la mission, parce que l'Esprit Saint nous envoie, et qu'il nous envoie partout dans le monde, et qu'il nous envoie pour annoncer l'amour de Dieu aux hommes et aux femmes de ce temps. Il faut donc être audacieux et plein de confiance, et en même temps rempli de cette humilité qui nous fait demander, jour après jour, d'être guidés par l'Esprit Saint. Je pense que nous avons à demander à l'Esprit de nous guider. Nous avons à vivre cette audace de nous laisser guider par l'Esprit comme le vent soulève les feuilles. Le vent, nous savons bien, nous ne savons pas ni d'où il vient ni où il va. Ayons cette audace de demander à l'Esprit Saint de nous guider. Le pasteur Bugner, qui était un très très grand pasteur protestant, avait fait dans les années 50 un magnifique sermon sur la Pentecôte que je vous invite à retrouver sur Internet. Et il disait à ses fidèles, s'ils y croyaient un tout petit peu à l'Esprit Saint, ils seraient différents. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si nous croyons un tout petit peu à la puissance de l'Esprit Saint, nous serions différents ? C'est-à-dire que nous aurions cette audace, non simplement de nous laisser aimer, non simplement d'aimer, mais d'être brûlant et comme des feux d'amour au cœur de ce monde. Alors, ayons l'audace de demander à l'Esprit Saint de nous conduire. Ce qui veut dire que si le rêve de chacun est de maîtriser sa vie, l'attitude du disciple, c'est de se laisser déposséder de son existence. La démaîtrise, c'est ce qui caractérise le disciple du Christ. Qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Nous savons bien que nous avons tendance, les uns et les autres, à pouvoir tout garder dans nos mains. Mais ce à quoi nous sommes invités, c'est d'ouvrir nos mains, en ouvrant nos cœurs, pour nous laisser guider. Et avouons-le, c'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est le plus difficile, c'est de s'abandonner à Dieu, et c'est sans doute cette audace un peu folle, et c'est la confiance qui nous est demandée, et cela n'est possible que dans la prière. C'est parce que nous serons des priants, que nous vivrons cette audace d'être, que nous vivrons cette conviction que nous sommes aimés, et que nous vivrons ce choix de Dieu. Ce choix de Dieu, il est pour une mission particulière, parce qu'il n'est de vie pleinement accomplie que si nous acceptons de nous demander ce à quoi Dieu nous appelle. À quoi Dieu m'appelle-t-il ? Nous savons que nous sommes des êtres uniques aux yeux de Dieu. Rappelez-vous ce que le prophète Isaïe nous disait : « J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. » Si chacun de nos noms est gravé sur la paume de nos mains, si chacun de nous est unique aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que chacun de nous a une mission unique à remplir au sein de ce monde et qu'il est choisi d'une manière spécifique pour accomplir cette propre mission. Alors, si chacun de nous, chacun de vous a une mission particulière, et je vous invite à vous demander à quoi Dieu m'invite-t-il ? À quoi Dieu m'appelle-t-il ? Quel risque me demande-t-il de prendre pour accomplir ma vie ? Le choix de Dieu, c'est ça. Et le choix qu'il fait de toi n'est pas celui qu'il fait de toi. La mission qu'il te demande à toi n'est pas celle qu'il te confie à toi. Les risques qu'il t'invite à prendre toi ne sont pas ceux que tu as à prendre toi. Chacun de nous est unique et nous avons donc à accomplir cette mission dans cette ouverture à l'Esprit Saint et cette ouverture du cœur, dans ce désir de nous abandonner totalement pour vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. C'est le choix de Dieu tel que nous sommes. Et vous savez, il y a pour moi, prêtre, un moment extrêmement important dans la messe et dans la prière eucharistique, notamment lorsque je lis, et surtout lorsque je dis la prière eucharistique numéro 2, au moment où le prêtre dit « Car tu nous as choisis, Seigneur, pour servir en ta présence. » Tu nous as choisis, Seigneur, pour servir en ta présence. Le choix de Dieu, c'est ça, c'est de le servir lui, c'est de le servir en sa présence. Alors, dans le couple force et audace, il ne s'agit pas tant de faire l'apologie de la faiblesse que d'exalter la force de Dieu. Cet amour que Dieu met en nous, cet Esprit Saint qu'il a mis en nous, c'est sa force qu'il met en nous. Nous faisons tous l'expérience de la force que nous trouvons en Dieu, avec lui, et de l'impuissance où nous sommes quand nous demeurons sans lui. L'Annonciation commence par ces mots « Rien n'est impossible à Dieu ». Et en même temps, nous faisons l'expérience que les apôtres ont fait lorsqu'ils ont demandé à Jésus « Mais Seigneur, qui donc sera sauvé ?» Et Jésus leur répond « Mais à l'homme, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. » Alors en même temps, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas tant de faire effectivement l'éloge de la faiblesse que de faire l'apologie de la puissance de Dieu. Non pas une puissance qui s'imposerait à nous comme quelque chose qui viendrait nous écraser, mais au contraire comme quelque chose qui, de l'intérieur de nous-mêmes, nous déploie totalement parce qu'il se dévoile totalement en nous-mêmes lorsque nous l'accueillons. Mais il faut peut-être parfois le reconnaître, nous nous complaisons un peu, quelquefois, dans la peur de nous-mêmes, dans la crainte de là où il nous voudrait nous conduire. Et nous sommes un peu comme Pierre, après le reniement. Pierre, qui 3 fois répond à la question de Jésus, « M'aimes-tu ? qui trois fois répond « Mais Seigneur, tu le sais bien, je t'aime », et qui entend Jésus lui dire cette phrase pour moi étonnante, mystérieuse, parce qu'elle m'interroge sur moi-même. Un jour viendra où tu étendras les bras, on te scindra et on te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Mais viens et suis-moi. Et par là, Jésus signifiait, par quelle sorte de mort Jésus, Pierre, allait le glorifier. Et on te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous ? Mais il faut qu'un autre nous saigne et que pour cela nous étendions les bras pour nous laisser ceindre d'une ceinture et nous laisser conduire. L'audace, c'est d'étendre les bras pour qu'un autre nous mette une ceinture afin que l'Esprit Saint nous conduise là où Dieu veut, parce que nous savons que c'est là que Dieu nous conduira au bonheur. Alors, rappelons-nous que tout est possible à Dieu, osons faire appel au Dieu de l'impossible, et nous pouvons dire alors avec saint Paul, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » Je peux tout en celui qui me rend fort. Cette audace d'être, cette folle audace d'être, c'est l'audace de se recevoir. Se recevoir dans la suite de cet abandon qui n'est rien d'autre que la foi, il faut accepter de se recevoir de Dieu. Rappelons-nous Jésus sur la croix. Il est là, brisé sur la croix. Et il y a au pied de cette croix Marie, sa mère, Jean, le disciple bien-aimé, Marie de Magdala, la femme pécheresse qui avait tant aimé le Christ, et l'autre Marie. Et toujours le père Lataste qui priait à Cadillac, dans l'église de Cadillac, il y avait au-dessus du maître-autel ce très beau tableau du Christ en croix avec Marie, Marie-Madeleine et Jean à ses pieds. Et le père Lataste a beaucoup réfléchi sur ce regard que Jésus portait d'une manière indistincte, le même regard qu'il a porté sur Marie, sa mère, sur Jean, le disciple bien-aimé, et sur Marie, cette femme pécheresse. C'est ce même regard d'amour, ce même regard de tendresse. Et Jésus, sur la croix, prononce ces mots, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Un instant, arrêtons-nous pour trouver le carburant de notre vie, pour avancer, la justification de notre audace, la justification du risque. Qu'est-ce qui justifie que nous prenions des risques ? Mais c'est le Christ en croix. C'est le Christ qui va jusqu'au bout de l'amour. La mort du Christ, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il connaît l'horreur de l'abandon. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il connaît la dérilection absolue. Il connaît la souffrance, l'angoisse, le rejet. Tous les chemins que nous pouvons emprunter, le Christ lui-même les a connus avant nous. Alors il faut un instant méditer sur la solitude du Christ en croix pour avoir l'audace d'avancer. Parce que ce Christ en croix n'est pas le dernier mot de Dieu à l'homme, mais que c'est la résurrection qui est l'ultime mot de Dieu à l'humanité. Et la mort du Christ en croix n'est pas un échec, mais c'est l'arbre sec qui est l'ouverture à la vie qui est donnée. Alors, il faut accepter de contempler le Christ en croix qui est la source même de notre audace. « J'ai versé telle goutte de sang pour toi », a écrit Pascal dans le mémorial, vous savez, ce texte qu'on a retrouvé dans le tissu de son manteau. « J'ai versé telle goutte de sang pour toi. » Et je crois qu'il faut que nous acceptions que le Christ meurt pour moi. Il ne meurt pas globalement. Il ne meurt pas pour l'humanité, il meurt pour l'humanité, bien sûr, pour le salut de tous les hommes, mais il meurt pour moi, pour toi, pour chacun de nous, pour que toi, moi, nous ayons la vie. Et que nous entrions dans la vie. Ce qui justifie notre audace, c'est ça. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Et alors, la réponse au « Seigneur, sauve-moi » de Pierre, c'est ça. Le Christ meurt pour moi, pour que désormais rien, pas même la mort, ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le regard de Jésus sur Marie, sur Jean, sur Marie-Madeleine, c'est ça. C'est ce regard qu'il porte sur moi, c'est ce regard qu'il porte sur le bois de la croix et qui, s'il nous émeut, nous meut, nous fait avancer, car nous savons qu'il sera toujours dirigé sur nous. Le filet de sécurité que nous avons, c'est le Christ en croix, c'est le Christ qui verse son sang pour moi, c'est ce regard d'amour dirigé vers nous, vers moi. Alors, ayons l'audace, le courage et prenons le risque de nous tenir au pied de la croix. C'est pas confortable de se tenir au pied de la croix. On est tellement mieux ailleurs. Mais il faut que nous restions au pied de la croix. Et il faut prendre Marie pour exemple. Parce que Notre-Dame de l'Assomption, celle qui vit dans la gloire du Père, c'est aussi Notre-Dame des douleurs. C'est la même. Et c'est ce que Siméon avait prédit qui se réalise. Un glaive lui a transpercé le cœur, mais elle est là, debout. Et je crois que nous pouvons être debout devant nos croix pour entrer dans la vie. Notre-Dame de l'Assomption, c'est Notre-Dame des douleurs. Et donc, avoir l'audace de se tenir debout devant nos propres croix, c'est accepter que la croix n'est pas une impasse, qu'elle n'est pas une fermeture, mais qu'elle débouche sur la vie. Le sacrifice du Christ, ce don qu'il fait de lui-même par amour sur le bois de la croix, celle du sceau de la divinité, par sa résurrection, tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Partout où il passait, il faisait le bien. Et donc tout ce qu'il a vécu est juste et beau. Alors, quand il appelait les publicains et les pécheurs à le suivre, il avait raison. Il n'était pas démagogue, mais il manifestait qu'il pensait qu'un avenir était toujours possible pour tous. Quand il pleurait devant son ami Lazare au tombeau, il n'était pas mièvre, mais il était pleinement, totalement solidaire de la douleur de l'homme qui pleure la mort, parce que rien de ce qui lui est humain ne lui est étranger. Partout où il faisait le bien. Se tenir au pied de la croix, c'est accepter que le Christ, par sa mort sur la croix, par le don complet de son amour, atteste que tout ce qu'il a vécu parce qu'il est ressuscité soit marqué du sceau de la divinité. Et se tenir au pied de la croix, c'est aussi affronter la réalité de notre propre mort, de notre mort, de la mort d'une image idéalisée de nous-mêmes, pour accepter d'être simplement ce que nous sommes, aimés de Dieu tel que nous sommes, pour être en vérité sans nous rêver. Ne nous rêvons pas, ne nous rêvons pas autre que nous-mêmes, mais acceptons avec beauté, avec force et reconnaissance ce qu'il nous est donné. La mort est la possibilité de vivre notre existence telle que nous sommes, avec la réalité de ce que nous sommes. Il y a la mort de la fuite de soi pour découvrir le prix de la vie, puisque le Christ est mort pour moi. Ne nous fuyons pas. N'acceptons pas de vivre comme écartelés, éclatés dans tous les sens, mais acceptons petit à petit de nous unifier autour du Christ, autour de nous-mêmes. Et c'est en se tenant au pied de cette croix, baigné par le regard d'amour du Christ, que nous pouvons le faire. Accepter de se tenir au pied de la croix, c'est accepter de regarder notre propre mort, mais notre propre mort à venir, pour vivre pleinement le présent. Avoir l'audace de vivre le moment présent pour penser non pas à un âge d'or utopique et un âge d'or illusoire, mais pour vivre ce présent que Dieu nous donne. Alors cela veut dire sans doute qu'il faut combattre. Ne pensons pas que Notre-Dame des douleurs, c'était une vie qui n'était pas bouleversée de l'intérieur. Ne pensons pas que la douleur de Marie était feinte. Ceux d'entre nous qui ont perdu un enfant, ceux qui ont perdu un être cher, savent le glaive que transperce le cœur. Il faut combattre, et la vie est un combat. Dans le livre de la Genèse, il y a le récit du combat de Jacob. Vous savez, Jacob combat contre Dieu, et au petit matin, Jacob reste marqué par ce combat, mais on ne sait pas bien qui est le vainqueur de ce combat. on ne sait pas qui est le vainqueur de ce combat. La vie, c'est un combat. L'essentiel, c'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de ne pas baisser les bras. Et l'essentiel, c'est sans doute de combattre. Alors, nous pouvons dire « Dieu était là et je ne le savais pas ». Dans combien de moments de notre vie ne pouvons-nous pas dire « Dieu était là et je ne le savais pas » ? C'est ça l'audace de vivre. C'est de vivre avec ce Dieu qui se révèle à nous, c'est de vivre avec ce Dieu qui parfois nous ne connaissons pas, dans les combats que nous menons, en sachant que ce n'est pas nous qui combattons, mais que c'est Dieu qui combat. L'essentiel, c'est pas d'être vainqueur, mais c'est de combattre. Et vous savez, il y a encore une belle phrase du Père Lataste. Lorsque vous verrez Dieu, il ne vous demandera pas si vous avez été pur, dit-il à ces femmes qui étaient en prison. Il ne vous demandera pas si vous avez été parfaite, mais il vous le demandera si vous l'avez beaucoup aimé. Il ne s'agit pas d'être pur, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de beaucoup aimer. Le combat, c'est ça, c'est le combat de ne jamais renoncer à l'amour, parce que sur la croix, et en nous tenant au pied de cette croix, nous sommes baignés par cet amour. Se recevoir du Christ sur la croix, comme Jean se reçoit du Christ par Marie. Se recevoir des autres aussi, cela veut dire être dépendant du regard des autres, car c'est sans doute un danger de vivre totalement sa dépendance. Ce n'est pas être dépendant du regard des autres que de se recevoir des autres. Nous avons besoin du regard des autres, mais ce que nous sommes fondamentalement ne dépend pas de ce regard positif ou négatif que l'autre pose sur moi, mais profondément de mon lien au Christ. Ça veut dire que j'ai besoin de l'autre, d'un autre que moi-même. L'altérité est nécessaire. Pour que je puisse être « je », c'est parce qu'il y a un « tu ». Et vous savez bien, Martin Buber l'a bien dit, hein, c'est parce qu'il y a un « tu » que je suis et que « je » permet au « tu » d'être. Il y a dans ce recevoir de l'autre cette possibilité pour moi d'être. Mais il faut risquer le fait de se recevoir de l'autre. Accepter que ce ne soit pas moi qui me dise tout de moi-même, que ce soit moi qui me reçoive aussi de l'autre. Que j'accepte que l'autre, aussi différent soit-il de moi, qu'il puisse m'apporter quelque chose pour me faire grandir. La différence n'est pas une richesse en elle-même, vous le savez, mais elle n'est belle que si elle débouche sur la communion. Il faut accepter de se confronter à l'autre pour se recevoir de l'autre, pour avoir l'audace parfois de vivre le conflit. Accepter de vivre le conflit, c'est nécessaire. Et je pense qu'accepter de vivre le conflit, c'est nécessaire également pour vivre le pardon. Parce qu'il y a quelque chose de très important dans vivre le pardon. Vous savez, quand on dit toujours « c'est pas grave, on n'a pas besoin de pardonner », c'est quand quelque chose est grave qu'il faut pardonner. Parce que, je crois que je vous l'ai déjà dit à un moment, ce qu'on peut excuser, on n'a pas besoin de le pardonner. Ce qu'on peut oublier, on n'a pas besoin de le pardonner. Donc l'objet du pardon, c'est ce qui est inexcusable et inoubliable, et donc proprement l'impardonnable. C'est l'impardonnable qu'il faut pardonner. Et donc comment est-ce que le pardon qui est un chemin, et lorsqu'on ne peut pas pardonner, il faut désirer le pardon, et lorsqu'on ne peut pas désirer le pardon, il faut désirer le désir du pardon. Comment est-ce que nous acceptons justement que nous ayons cette audace de nous recevoir de l'autre, dans la confrontation parfois, dans la blessure quelquefois, mais toujours dans le désir du pardon. L'audace de pardonner. Alors, là, je fais un tout excursus très rapide sur l'Église. Parce que je crois que notre Église est là à vivre cette audace, justement, de vivre cette conversation avec le monde à laquelle le pape Paul VI l'a toujours invité, notamment dans Ecclesiam Suam, à laquelle le Concile Vatican II l'invite toujours. C'est l'intuition du Concile, c'est la réalité de l'Église, de se faire conversation avec le monde. On ne peut, je crois, jamais dire « non possumus », nous ne pouvons pas. Et je crois qu'il y a, me semble-t-il, un danger, je ressens quelquefois une difficulté dans des positions aujourd'hui dans l'Église qui verrait dans la société comme quelqu'un qui l'agresserait et qui dit « il y a une ligne que je ne peux pas franchir ». À partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de vie commune possible. J'ai été très marqué à un moment dans ma vie à la conférence des évêques par une discussion avec le cardinal 23 qu'on ne peut pas soupçonner d'être d'un laxisme total. Et le cardinal 23, devant l'attitude de certains prêtres et de certains chrétiens qui disaient « ça je n'accepterai jamais, ça ce n'est pas négociable », disait « mais si on ne peut pas négocier, on ne peut pas vivre en société. La vie en société, c'est une vie dans laquelle on peut tout discuter, ça ne veut pas dire qu'on peut céder sur tout. Mais tout doit pouvoir être discuté. » Et donc je crois que nous avons à accepter que notre Église soit celle qui accepte de discuter sur tout sans céder sur rien de ce qui lui est essentiel, mais qu'elle accepte d'être en discussion. L'Église se fait conversation. Et donc, il y a un grand danger, me semble-t-il, à aujourd'hui considérer que nous serions des victimes de la société, parce que s'il y a victimisation, il y a un risque d'identitarisme, et je crois que la loi sur le séparatisme qui va être votée est une loi qui nous empêche de vivre cet identitarisme. La communion de l'Église ne nie pas les différences pastorales, mais elle reconnaît dans une même communion de foi l'estime que je peux avoir pour l'autre. Ça, vous savez, c'est, je crois, la force de l'Église. La force de l'Église, c'est reconnaître que nous avons une communion qui va au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences, mais que le fait que tu ne penses pas comme moi n'enlève rien à l'estime que j'ai pour toi. À l'estime que j'ai pour toi. Si déjà nous vivions ça en Église, ce serait magnifique. Et donc, il faut que nous acceptions, je crois, de nous recevoir de l'autre dans la confrontation aussi au sein même de l'Église, pour vivre cette estime de soi. Contempler l'audace de Dieu, accepter la belle audace d'être, et je termine en disant, mais tout cela se vit au risque de l'Évangile. On attribue à Bernadette, la petite Bernadette, qui, vous savez, est, je crois, une des plus grandes des saintes, une des saintes les plus actuelles. Et s'il y a un livre que je vous invite à lire, c'est le livre du père Laurentin, La vie de Bernadette. Ça se lit comme un roman, c'est tout petit, c'est magnifique. La vie de Bernadette. Un petit bout de bonne femme de 14 ans, pauvre, parmi les plus pauvres de Lourdes, qui reçoit un jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, le 11 février 1858, la visite de cette belle dame, et elle, qui ne savait ni lire ni écrire, qui était inculte, qui n'avait jamais été au catéchisme, va recevoir pendant ses 18 apparitions les 10 phrases que la Vierge Marie lui prononcera pour elle, dans un climat de prière perpétuelle, baignée, dira-t-elle, du sourire de Marie. Et ce petit bout de bonne femme, qui n'avait pas de culture, va tenir contre les juges, contre les magistrats, contre l'évêque, contre son curé, contre toutes les autorités, avec cette liberté et cette force d'âme incroyable, en disant « je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis simplement chargé de vous le dire ». Avec une liberté intérieure folle. On lui dit, on lui prête ces paroles qu'elle n'a sans doute pas dites, « il suffit d'aimer ». Mais c'est si vrai. Au risque de l'Évangile, c'est ça. Il suffit d'aimer. Saint Augustin disait quelque chose de la même façon, « aime et fais ce que tu veux ». Alors, il faut bien comprendre cela. Si la source de l'amour est en Dieu, la mesure de l'amour est aussi en lui. Et c'est à la mesure de Dieu aime qu'il nous faut aimer. De même que le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. De même que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que notre amour, et le risque de l'Évangile, c'est ça, c'est d'aimer jusqu'à donner sa propre vie. L'amour est don, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour est pardon, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et je pense qu'on ne peut jamais enfermer quelqu'un dans un acte qu'il a commis. Cet amour se traduit toujours par prendre soin de l'autre. Le risque de l'amour, c'est le risque de prendre soin de l'autre. Il suffit d'aimer, et l'avenir est à la tendresse. Je pense que dans ce monde, rien n'est plus nécessaire que la douceur. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Combien cette béatitude est nécessaire. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. La douceur, c'est pas la mollesse, mais elle est l'expression de cette bienveillance dont notre monde a tant besoin. L'audace, elle est tranchante, et la douceur l'apaise. Si cette audace se fait fulgurance, si cette audace se fait tranchante, alors elle doit être pleine de douceur. Et tout à l'heure, dans la prière, quelqu'un disait « Demandez à Dieu que l'esprit le guide vers une juste audace. » Et c'est aussi la juste manière d'avoir l'audace. Avec la douceur du Christ, je suis doux et humble de cœur. Que notre audace ne soit pas simplement une espèce d'impétuosité, mais qu'elle soit emplie de cette douceur. Et puis, je terminerai par là, par cet évangile que nous avons lu dans la prière, « Avance au large ». On ne peut pas rester spectateur de sa vie, vous le savez bien, on est acteur sous la motion et sous la conduite de l'Esprit-Saint. Celui qui est spectateur de sa vie est condamné à sécher sur place. Choisis la vie et tu vivras, toi et tes descendants. Mais pour ça, il faut choisir. Nous ne pouvons pas ne pas faire de choix. Et c'est si on fait des choix qu'on gagne. Vous connaissez cette pub qu'il y avait autrefois pour le loto, « Tous ceux qui ont gagné ont joué ». Si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez pas. Alors, je vous invite vraiment à jouer. On ne joue pas sa vie comme on joue à un jeu de hasard, mais on se plonge dans sa vie pour pouvoir gagner la plénitude de l'abondance à laquelle nous sommes promis. Avancer au large est possible parce que nous savons que le Christ est là. Seigneur, sauve-moi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais aussi, vous avez entendu dans ce passage que j'ai lu au début, et je termine là-dessus. N'ayez pas peur, dit Jésus. Soyez sans crainte. Il ne cesse de nous dire ça. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Et c'est le premier mot de l'évangile à Marie. Premier mot de l'Annonciation, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Sois sans crainte, n'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur d'être appelé par Dieu, n'ayez pas peur de vivre en plénitude, n'ayez pas peur de recevoir l'abondance promise, n'ayez pas peur de vous risquer. Qu'est-ce que vous risquez, si ce n'est de tomber et d'être relevé par Dieu? Qu'est-ce que vous risquez, si ce n'est de gagner l'abondance promise, de découvrir la promesse de Dieu et du coup, de découvrir un peu plus de bonheur. Mes amis, nous ne sommes pas faits pour une vie étriquée. Nous ne sommes pas faits pour des horizons étroits. Nous sommes faits pour les larges steppes. Nous sommes faits pour l'avenir et l'espérance préparés par Dieu. Alors, accueillons cette vie dans l'action de grâce, une abondance qui demande à être partagée, une audace que nous vivons ensemble, un risque mesuré, mais osons l'amour, osons la vie. Merci.